Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia, bonjour. Au Mali, 5 gendarmes maliens qui escortaient un convoi d'une entreprise minière ont péri ce mardi dans une attaque djihadiste présumée dans l'ouest du pays, selon des sources militaires maliennes. L'attaque, l'une des plus meurtrières pour l'armée dans cette zone, s'est produite à proximité de l'endroit où deux camionneurs marocains avaient été tués et un autre blessé le 11 septembre à plusieurs centaines de kilomètres au nord de Bamako, sur un important nœud de communication vers la Mauritanie et le Sénégal. Au Nigeria, des combats meurtriers ont opposé des djihadistes de Boko Haram et de l'ISWAP sur une île stratégique du nord-est du Nigeria, prémisse d'une bataille intestine entre ces groupes rivaux pour le contrôle du lac Tchad. Les combattants de Boko Haram, lourdement armés, ont réussi à prendre lundi le contrôle de l'île de Kirta Wulgo, qui servait de port à l'ISWAP pour importer des armes et des vivres dans les territoires sous son contrôle, selon des sources sécuritaires et des pêcheurs locaux. Nigeria toujours, la police a annoncé ce mardi l'arrestation de dizaines d'adeptes chiites appartenant au mouvement islamique du Nigeria après des affrontements avec ce groupe interdit au cours d'une procession religieuse à Abuja. La police a affirmé que la dispersion du rassemblement n'a pas fait de victimes, mais selon un responsable du mouvement, ces violences ont causé la mort de 8 de ses membres. Le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, patron de l'OMS, s'est excusé mardi du comportement des employés de l'OMS qui sont livrés à des violences sexuelles sur des dizaines de personnes en République démocratique du Congo. Il a promis des conséquences sévères aux responsables lors d'un point de presse sur les conclusions d'une commission d'enquête indépendante. Ces abus sexuels ont été commis par des membres du personnel, aussi bien embauchés localement que par des membres internationaux des équipes chargées de lutter contre l'épidémie d'Ebola qui a sévi en RDC entre 2018 et 2020. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a réclamé hier, lors d'une table ronde de l'OMC, un allègement d'urgence des droits de propriété intellectuelle des vaccins et autres technologies médicales utilisées contre le Covid, alors que les pays pauvres manquent cruellement de doses. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Hachi a estimé hier que l'enjeu de la vaccination est absolument capital pour relancer le tourisme étranger dans son pays, où le chiffre d'affaires du secteur s'est effondré de 70% en 2020. Oui, nous avons besoin de plus de doses, plus vite, pour que la reprise mondiale comme celle du tourisme ne se déroule pas à deux vitesses, a poursuivi M. Hachi, plaidant pour une solidarité internationale à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme. Pfizer-BioNTech a annoncé hier avoir soumis à l'Agence américaine des médicaments les résultats des essais de son vaccin contre le COVID-19 chez les enfants de 5 à 11 ans et prévoir de déposer une demande formelle d'autorisation pour cette tranche d'âge dans les prochaines semaines. Ici à Washington, le président Joe Biden renonce à un déplacement prévu ce mercredi à Chicago dans l'espoir de faire avancer deux projets de réforme majeurs, l'un consacré aux infrastructures, l'autre à des dépenses sociales, sont pour l'instant bloqués par une âpre bataille parlementaire. Autre enjeu, le risque d'avoir le premier défaut souverain des États-Unis qui pourrait intervenir dès le 18 octobre, et aussi la nécessité pour le Congrès d'adopter avant jeudi soir minuit un nouveau budget du gouvernement fédéral pour éviter que les fonds publics ne soient soudainement coupés, ce qu'on appelle ici le « shutdown ». Amazon va commercialiser un robot pouvant faire des patrouilles dans les maisons, un appareil de science-fiction devenu réalité selon le géant des technologies, mais aussi un outil de surveillance potentiellement inquiétant pour les critiques. suite de nos informations, 5 officiers du contre-terrorisme ont été tués hier lors d'une perquisition à Khartoum visant une cellule liée au groupe État islamique, une organisation djihadiste qui n'a jusqu'ici jamais revendiqué d'attaque au Soudan, selon les services de renseignement, Jacques Aristide.
11 terroristes de différents pays étrangers ont été arrêtés lors de cette descente menée dans une maison du quartier de Jabra, indique le renseignement dans un communiqué. Mais des complices ont tiré sur les forces de sécurité, tuant 2 officiers et 3 sous-officiers, tandis que 4 terroristes étrangers sont parvenus à s'enfuir, poursuit-il. Le Premier ministre Abdallah Hamdok a présenté ses condoléances après la mort des 5 officiers qualifiés de héros face à la cellule liée au groupe État islamique, dit-il. Hier, l'organe de propagande de l'EI n'avait pas encore évoqué un quelconque incident à Khartoum. En 2019, le département d'État américain avait mis en garde contre une possible arrivée au Soudan du groupe État islamique qui ne tient plus que des poches en Syrie et des cellules clandestines terrées dans le désert et les montagnes d'Irak. S'il n'y a pas d'attaque de grande envergure au Soudan, le I semble avoir un réseau actif de facilitateurs dans le pays, d'après le rapport. Fin 2020, Khartoum a été retiré par Washington de sa liste des pays soutenant le terrorisme. L'incident d'hier vient alourdir le fardeau du Soudan qui tente de mener à bien sa transition après la révolte ayant mis fin à 30 années de régime Béchir en avril 2019.
Les chefs du Pentagone ont reconnu hier avoir sous-estimé la démoralisation de l'armée afghane, dont l'effondrement dans les derniers jours du retrait des forces étrangères de Kaboul a permis la victoire facile des talibans après 20 ans de guerre en Afghanistan. Précision de Nanit Talani.
Le fait que l'armée afghane que nous avons formée avec nos partenaires se soit effondrée, souvent sans tirer une balle, nous a tous pris par surprise. Ce serait malhonnête de dire le contraire, a admis le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, qui s'expliquait devant le Sénat sur la fin chaotique de la guerre en Afghanistan. M. Austin a également reconnu que Washington n'avait pas réalisé le niveau de corruption et l'incompétence des officiers afghans de haut rang, ni mesurer les dommages causés par les changements fréquents et inexpliqués décidés par le président Ashraf Ghani au sein du commandement. Washington n'avait pas non plus prévu que l'accord de Doha démoraliserait l'armée afghane. Le chef d'état-major, le général Mark Milley, a noté de son côté que la décision de retirer d'Afghanistan les conseillers militaires déployés au sein des unités afghanes a contribué à surestimer les capacités de l'armée afghane. Nous n'avons pas pu évaluer complètement le moral et la volonté du commandement. On peut compter les avions, les camions, les véhicules, les voitures, mais on ne peut pas mesurer le cœur humain avec une machine. Il faut être là, a-t-il confié.
Une ancienne directrice de cabinet de l'ancienne première dame américaine Melania Trump et ancienne porte-parole de la Maison-Blanche entre juillet 2019 et avril 2020, pendant la présidence Trump, décrit dans un livre les accès de colère terrifiants de l'ex-président qui ne se calmait qu'en lui diffusant ses morceaux de musique préférés. C'est du moins ce que révèlent des extraits d'un livre publié mardi par la presse américaine John Linden.
Dans un ouvrage intitulé « I will take your questions now », entendez, je vais maintenant prendre vos questions. Stéphanie Grisham décrit un Donald Trump caractériel, menteur, dissimulateur et sexiste. Stéphanie Grisham affirme que pour calmer les colères terrifiantes de l'ancien président, qui dispose toujours d'un soutien massif au sein de l'électorat républicain, une personne avait été désignée à la Maison-Blanche pour lui diffuser ses chansons préférées. Le Washington Post rapporte un autre passage sur une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine à marge du sommet du G20 il y a de cela 2 ans. Selon Stéphanie Grisham, l'ancien président américain a dit à son homologue russe en l'absence des journalistes, Ok, je vais jouer les durs avec vous quelques minutes, mais c'est pour les caméras et une fois qu'ils seront partis, nous parlerons. Stéphanie Grisham décrit par ailleurs, toujours selon les extraits publiés par le Washington Post et le New York Times, une Mélania Trump de plus en plus hostile à son mari après des révélations sur la liaison entre ces derniers et une actrice.
La Minute Éco, John Linden.
Les avoirs en devises de la Banque centrale de Tunisie ont connu une régression d'environ 250 millions de dollars au 31 mai 2021, soit un repli de 3,23% comparé à la même période de 2020. C'est selon Financial Afrique qui cite les données issues de la situation comptable des cadres de cet institut d'émission basé à Tunis. Au Cameroun, elles sont 14 banques sur les 15 en activité dans le pays à avoir écopé d'amendes pécuniaires cumulées qui s'élèvent à près de 5 millions de dollars en 2020. Ces banques, selon Financial Afrique, auraient violé la nouvelle réglementation d'échange. Les sanctions sont administrées par la COBAC, la Commission bancaire de l'Afrique centrale, un démembrement de la Banque des États de l'Afrique centrale. Ici aux États-Unis, le projet de loi prévoyant le relèvement du plafond de la dette des États-Unis et le financement des administrations fédérales pour éviter leur paralysie, communément appelée shutdown, n'a pas été adopté lundi par le Sénat, très divisé où les républicains ont obtenu suffisamment de voix pour empêcher la tenue du vote du texte. Les pairs démocrates du président américain Joe Biden, qui dispose d'une majorité étroite dans les deux chambres du Congrès, n'ont plus que deux jours pour éviter un shutdown dans la mesure où le financement actuel des services fédéraux prend fin jeudi soir.
Merci John. Et maintenant les sports avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Le Kenyan Victor Wanyama met fin à sa carrière internationale. Celui qui a marqué la sélection kenyane sur la dernière décennie tire un trait sur l'équipe nationale à seulement 30 ans. Nous avons partagé de bons moments ensemble et je suis fier d'avoir été votre capitaine et leader. Le moment est venu de laisser la main à la nouvelle génération pour qu'elle puisse imprimer sa marque et emmener le pays vers d'autres sommets, a écrit sur Twitter le milieu de terrain du CF Montréal qui n'a pas revêtu le maillot des RMB Stars depuis novembre 2020. En 14 ans, Wanyama compte 64 sélections avec l'équipe nationale du Kenya. En Europe, suite des matchs de la deuxième journée de la Ligue des Champions ce soir, le tenant du titre Chelsea se déplace chez la Juventus. Après la claque inaugurale reçue au Camp Nou 3-0, le Barça est attendu au tournant sur la pelouse du Benfica. Le Bayern Munich reçoit le Dynamo Kiev, duel européen inédit au menu à Bergame entre l'Atalanta et les Young Boys de Berne. Dernier de la poule, Manchester United doit réagir à Old Trafford face à Villarreal. Revanche de la finale de Ligue Europa perdue en mai par les Mancuniens. Salzbourg reçoit Lille, le Séville FC se déplace à Wolfsburg. Hier, le Paris Saint-Germain, avec le premier but de Lionel Messi, a battu Manchester City 2-0 avec un énorme Idrissa Gueye, auteur du premier but des Parisiens. Il s'agit de son quatrième but cette saison, soit deux de plus que son total du dernier exercice. Liverpool n'a pas eu à forcer son talent pour humilier 5-1 le FC Porto, dont un but du Sénégalais Sadio Mané et deux de l'Égyptien Mohamed Salah. L'Atlético Madrid a battu l'AC Milan 2-1. Le Borussia Dortmund s'est imposé 1-0 devant le Sporting Portugal. Le RB Leipzig a perdu 1-2 contre le Club Brugge. Le Real Madrid a subi la loi du modeste shérif Tiraspol, néophyte dans la compétition et vainqueur 2-1 sur la mythique pelouse du stade Santiago Bernabéu. Ici aux États-Unis, LeBron James, la superstar de la NBA, s'est fait vacciner contre le Covid-19, mais refuse d'encourager qui que ce soit à le faire, car il estime que ce n'est pas son rôle, a-t-il affirmé hier lors du Media Day des Lakers. C'est la première fois que James s'exprime publiquement sur son choix. Certaines stars ont ouvertement affirmé qu'elles refusaient d'être vaccinées, tel Bradley Beal des Washington Wizards, qui a depuis légèrement rétro-pédalé en disant qu'il se posait toujours la question. Kyrie Irving lui refuse de dire s'il l'est, mais son absence lors du Media Day des Brooklyn Nets lundi au Barclays Center n'a laissé guère de place au doute. Il n'en avait pas l'autorisation, un décret de la ville de New York imposant aux sportifs professionnels de prouver qu'ils ont reçu au moins une dose du vaccin pour pouvoir pénétrer dans les enceintes de leur club.
Merci, Yacouba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Réaction en Guinée après la publication par la Junte de la Charte de la Transition. Si les points clés du texte sont connus, aucune durée de la période d'exception n'a été fixée. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
L'objectif de la charte, définir les missions des organes de la transition. Le texte était attendu par les Guinéens.
Je trouve que c'est salutaire, il faut se mettre à la tâche. Et bien que ça a retardé, nous souhaitons que ce qui est mentionné dans cette charte soit appliqué à la rigueur avec tout ce que nous attendons, le peuple et cette autorité. Pensons que cela pourrait donner une tenue au développement de la Guinée ainsi que la cohésion sociale.
C'était important de mettre ça en place maintenant là.
La charte est dévoilée 3 semaines après la prise du pouvoir par les militaires. Elle assigne aux autorités de transition, entre autres, l'élaboration d'une nouvelle constitution et l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes. Saïkou Yaya Barry, de l'UFR, parti de l'ancien Premier ministre Sidi Atouré.
À partir du moment où il y a la charte, des engagements doivent être pris. Et cela permettrait aux autorités futures d'organiser rapidement les élections locales, parce que c'est des élections de proximité. En mettant tout ça dans la transition, le risque qu'il y a, c'est de trouver les moyens nécessaires pour organiser toutes ces élections.
Les anciens dignitaires du régime Condé sont exclus des organes de la transition. Certains soulagements se réjouissent sous les mains Konaté de la communication de l'FDG de Sélou Darien Diallo.
Nous avons dénombré plus de 285 Guinéens qui ont été froidement assassinés. Nous comprenons qu'ils soient mis au banc, n'est-ce pas, de cette transition-là. Cela va donner des garanties d'une transition réussie à notre pays.
Dans le camp du président déchu, c'est l'inquiétude. Alhoussène Makanira Kaké dit ne pas comprendre l'exclusion qui vise les proches d'Alpha Condé.
Le CNRD a dit « Envoyez-moi les mémos ». Et nous avons vu dans leur démarche, c'est une démarche d'exclusion. Contrairement à ce que nous fait croire, que c'est pour réunir les Guinéens. Mais on n'est pas au pouvoir déjà, on défend l'exclusion. Ça nous fait peur.
La transition sera conduite par 4 organes, le Comité national du Rassemblement pour le Développement CNRD, instauré par les militaires après le putsch du 5 septembre et dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition, chef du CNRD, chef de l'État et des forces armées, un gouvernement dirigé par un premier ministre civil et un organe législatif, le Conseil national de la transition CNT. Aucun membre de ces organes ne pourra se présenter ni aux élections nationales, ni aux élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, rebondissement dans l'affaire de l'assassinat en 2017 de 2 experts onusiens, avec l'arrestation de 2 nouvelles personnes, dont un avocat qui s'était présenté à la justice. Avant ces personnes, le vidéaste Israël Ntumba avait été arrêté au mois d'août, suivi la semaine dernière de Sostène Kambidi, correspondant de l'AFP et du média congolais en ligne actualité.cd. Tous deux sont accusés d'avoir été en possession d'une vidéo du meurtre. L'ONG Reporters sans frontières appelle à la libération de Kambidi, soulignant qu'il avait en fait transmis la vidéo aux autorités. Pour un éclairage, Marius Muhunga a joint Christian Kabange, professeur de droit à l'Université de Kinshasa.
On recherche à établir la vérité par rapport à ce procès. Il se fait que certaines personnes ont été arrêtées parce qu'on suspecte qu'elles détiennent des informations qui sont de nature à éclairer la lanterne du tribunal.
Parmi les personnes arrêtées, il y a un journaliste à qui on reproche d'avoir été parmi les premières personnes d'être en possession de la vidéo montrant leur exécution. N'est-il pas protégé par la loi de ne pas divulguer sa source?
On va dire que c'est un cas assez subtil dans la mesure où effectivement l'article 11 de la loi fixant les modalités de l'exercice de la presse, la loi du 22 juin 1996, prévoit qu'un journaliste n'est pas obligé de divulguer ses sources. Évidemment, cet article prévoit une fiche qui dit « sauf dans les cas prévus par la loi ». Alors, quels sont ces cas? C'est assez difficile de le dire. On est dans une situation, n'est-ce pas, où on cherche à établir la vérité. Et donc, est-ce qu'on peut considérer que la gravité du crime, que l'importance de l'information recherchée pour la répression serait de nature à obliger le journaliste à divulguer sa source dans ce cas précis? C'est difficile de le dire, mais le principe, c'est qu'ils ne sont pas obligés de divulguer leur source. Évidemment, l'exception serait des cas prévus par la loi, sauf évidemment si on considère que c'est peut-être des infractions qui tombent dans le cadre du terrorisme. Ça, c'est une autre dimension des choses.
Restons sur le journaliste. Est-ce que le fait de détenir des vidéos fait de lui automatiquement un suspect?
Non, je ne pense pas, parce que en droit pénal, on a de manière générale deux régimes. C'est soit la coréité, soit qu'on est co-auteur d'une infraction, soit alors qu'on tombe dans la complicité, si on est complice de l'infraction. Je ne pense pas qu'un journaliste qui refuse de divulguer sa source peut ipso facto être considéré comme un suspect, comme un conteur ou un complice. Vous savez qu'on est en droit pénal, il faut réunir deux éléments essentiellement. Évidemment, au-delà de l'élément légal, il y a l'élément matériel. Il faut démontrer qu'ils ont effectivement posé un acte et aussi il faudrait démontrer l'élément intentionnel. Donc je pense que c'est un peu exagéré de considérer que le fait de refuser de divulguer sa source fait de vous automatiquement un suspect.
Parmi les deux autres personnes arrêtées, il y a un avocat venu librement se présenter au magistrat. Comment expliquez-vous le fait qu'il soit lui aussi arrêté?
Je ne sais pas très bien redire quel est le contexte dans lequel l'avocat a été arrêté, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'arrête pas un avocat n'importe comment. Et pour l'arrêter, il faudrait premièrement qu'il y ait des faits répréhensibles qui soient mis à sa charge et il faut respecter la procédure en obtenant l'autorisation du procureur général près la cour d'appel.
Christian Kabangé, professeur de droit à l'université de Kinshasa.
Restez branchés sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Au Cameroun, le sultan roi des Bamoun, Ibrahim Mbombo Nyoya, est décédé ce lundi à 83 ans à l'hôpital américain de Paris où il avait été admis après avoir contracté le Covid-19. Ce souverain très influent régnait sur une communauté d'environ 2 millions de personnes. Il était aussi un ami personnel du président camerounais Paul Biya et a occupé de hautes fonctions politiques et administratives dans son pays. Pour en savoir davantage sur ce chef traditionnel, Mohamed Houmfa a joint Moussa Nyoya, politologue et auteur d'un livre biographique sur le défunt.
Ce qui faisait la particularité du sultan roi des Bamoun, c'était d'abord l'immensité de son royaume, parce que c'est incontestablement le chef le plus important du Cameroun, eu égard à la démographie de la population qu'il gouvernait et la superficie de son terroir. Également, c'était le seul chef traditionnel qui avait eu cette trajectoire politique-là avec un peu plus de 30 ans dans les sérades du gouvernement et de la diplomatie, parce qu'il était également deux fois ambassadeur. C'est celui que le Cameroun gagne sur la CAN 84 et 88, qu'elle est ministre de la Jeunesse et des Sports. Et il meurt en étant sénateur de la République du Cameroun depuis 2013. Donc, c'était l'un des rares à avoir cet acabit-là, à avoir cette trajectoire-là parmi les chefs traditionnels.
Quels sont les faits marquants de son règne, notamment ses principales œuvres dans sa région du Noun et pour son peuple?
Il y a le réaménagement du musée de Roi Bamoun, tout d'abord, l'inventaire de 600 ans de reliques historiques, notamment les objets du palais de Roi Bamoun. Il y a également le projet de la sauvegarde de l'écriture Shum à travers le Bamoun Script and Archive Project. Il a créé également une radio communautaire du Noun. Il a construit un hôpital du palais du Noun. Et ce qui apparaissait comme sa plus grande œuvre, c'était naturellement la construction du tout dernier musée qui leur a coûté plus de 4 milliards. Mais à côté de ça, il a mené une intense activité de lobbying au profit des fils et filles du Noun ainsi que du département du Noun.
Le sultan était un cadre du parti au pouvoir et il administrait une région où est très ancré l'UDC, le parti rival de son cousin Feu Adamou Ndamdjoya. Est-ce que ça lui a desservi d'être un roi partisan?
En fait, les Bamouns avaient très bien fait la part des choses entre Ibrahim Bombondjouya, membre du bureau politique du RDPC, et El Hadj Ibrahim Bombondjouya, sultan roi des Bamouns. La part des choses était clairement faite. Il est bien vrai que dans toute société, il y a toujours les brebis égarés, des gens qui pouvaient à un moment donné faire certaines confusions et poser des actes dommageables, mais cela n'était pas une dynamique collective dans la localité.
L'un de ses fils va lui succéder dans un contexte où au Cameroun, en général, les chefs traditionnels perdent de plus en plus de leur autorité. Comment préserver, selon vous, la force morale et symbolique qu'ils semblaient si bien incarner?
Moi, je pense que ce que le prochain sultan de Bamoun devra faire, ça sera de se mettre au-dessus de la mêlée, des guerres intestines entre les différentes élites et de pouvoir persévérer dans le leitmotiv qui était celui du sultan, savoir la préservation des traditions, des us, coutumes, ainsi que de l'artisanat Bamoun, par exemple, et surtout de veiller à la coexistence pacifique entre les différentes tendances religieuses.
Moussa Ndjoya, politologue. En Grande-Bretagne, une grave pénurie de carburant dans les stations d'essence frappe le pays depuis quelques jours. Le Brexit et la pandémie de Covid-19 ont largement contribué à cette situation qui provoque la panique et la frustration des usagers et des chauffeurs de taxi, ce qui a poussé le gouvernement britannique à annoncer qu'il pourrait mobiliser l'armée en cas de besoin. Pour en savoir plus, Abdourahmane Dia a joint Mamoudou Moussaba, journaliste basé à Londres.
Écoutez, en ce moment, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une grosse frustration, une exaspération de la part des usagers avec de longues files d'attente devant les stations de carburant, des difficultés réelles pour se rendre à son lieu de travail. Et puis, il n'est pas rare de voir des chauffeurs de taxi, par exemple, complètement désemparés devant des stations de pompes, carburant qui sont à sec. La situation est d'autant plus inquiétante qu'on observe un phénomène de panic buying. Certains font des achats de panique et tentent de faire des réserves, craignant, par exemple, une aggravation de la situation d'ici les fêtes de Noël.
Et en dehors du secteur des transports, quels sont les autres secteurs qui sont affectés?
Bon, il faut dire que de nombreux autres secteurs sont bien évidemment touchés. À travers des sujets de reportage, j'ai vu à l'intérieur du pays des produits horticoles qui pourrissent juste faute de main-d'œuvre. Le plus inquiétant, c'est le manque de certains produits dans les rayons de marché, légumes comme les choux, la carotte, les concombres, mais aussi la volaille. Des chaînes de restauration d'enseignes très célèbres ont aujourd'hui du mal à satisfaire leur clientèle.
Et qu'est-ce qui est à l'origine de cette pénurie? Beaucoup évoquent un peu le Brexit.
À mon avis, il y a trois éléments importants qui expliquent cette situation. Il y a d'abord ce facteur déterminant, bien évidemment, qui est le Brexit. Beaucoup de chauffeurs de poids lourds venus des pays de l'Est étaient employés dans les secteurs du transport. Et tant que le Royaume-Uni était dans l'Union européenne, ils pouvaient travailler tranquillement ici. Mais avec le Brexit et les règles d'immigration qui sont de plus en plus strictes, la plupart d'entre eux sont rentrés et ne veulent vraiment pas revenir dans le pays. Cette bureaucratie, il faut le dire, a découragé plus d'un. Il y a ensuite les effets du Covid. Avec la pandémie, beaucoup ont perdu leur emploi et ne pouvaient pas rester dans une ville connue pour son coût de la vie jugé très cher. Il y a enfin que beaucoup de chauffeurs de camions poids lourds sont partis à la retraite et n'ont pas été remplacés.
Et quelles peuvent être les implications politiques de cette pénurie de carburant, notamment pour le Premier ministre Boris Johnson?
Le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson, tout comme les majors, disons, du secteur pétrolier comme BP ou Shell, joue l'apaisement. Selon eux, il n'y a pas de pénurie en tant que telle. Ce qu'il y a, c'est juste un manque de chauffeurs pour transporter le produit des dépôts aux stations d'essence. Des centaines de milliers de lettres vont être envoyées à des chauffeurs qui détiennent un permis pour qu'ils viennent occuper les postes vacants. Le gouvernement est aussi disposé à accorder quelques 10 000 visas de 3 mois à des travailleurs étrangers. Il a également mis en stand-by l'armée. Et elle pourrait entrer en jeu si la situation s'aggrave.
Joint à Londres, notre confrère Mamoudou Moussaba. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde d'aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.